Une grande consultation publique sur l'eau à l'échelle du bassin Loire-Bretagne est lancée. Donnez votre avis en tant que citoyen jusqu'au 18 juin. Pour contribuer à une vision d'avenir pour l'eau, l'association SOS Loire Vivante vous informe. Découvrez aujourd'hui ce que l'on peut faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes et la vie des milieux aquatiques. Écoutons maintenant Monsieur Sapet de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et Monsieur Boineau, pêcheur professionnel. Monsieur Sapet, vous êtes chef du service planification à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Pour 2015, les eaux et les milieux aquatiques doivent avoir retrouvé un bon état écologique. Qu'est-ce que ça signifie ?
Une rivière en bon état écologique, c'est une rivière dans laquelle les peuplements vivants sont peu perturbés, à la fois sur le plan de la diversité des espèces, de la quantité de poissons et également de la qualité.
Est-ce qu'on peut dire que les conditions de réussite du bon état écologique des eaux et des milieux aquatiques, tels qu'ils étaient prévus, ont été réunies ?
Alors à l'échelle du bassin, des leviers sont déjà en place à travers de l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le SDAGE, et de son programme de mesures. Justement pour atteindre ce bon état écologique des eaux, puisque le SDAGE fixe les échéances à laquelle on doit atteindre le bon état des eaux.
Aujourd'hui, en 2015, on a quelle proportion qui sont en bon état écologique ?
On a à peu près un tiers des cours d'eau qui sont en bon état écologique.
Selon les connaissances actuelles de nos écosystèmes, quelles sont les évolutions possibles de la qualité de l'eau sur le bassin de la Loire ?
Sur le long terme, on s'aperçoit que les politiques qui ont été menées depuis 50 ans pour l'amélioration des rejets ponctuels, alors pour agir sur les rejets d'azote, de phosphore, sur les matières organiques, ont montré leur efficacité.
Alors, est-ce qu'il y a des priorités qui ont été définies, des actions spécifiques à mener assez rapidement pour retrouver une bonne qualité de l'eau ?
Les principales difficultés rencontrées sur notre bassin pour l'atteinte du bon état des eaux, c'est d'une part l'hydromorphologie. Alors, c'est un terme un peu barbare. Ça recouvre à la fois l'aspect débit, c'est-à-dire que si on n'a pas d'eau dans les cours d'eau, c'est difficile d'être en bon état. C'est aussi les aspects liés à l'artificialisation du lit et des berges ou à la présence d'ouvrages.
Une rivière donc avec suffisamment d'eau et finalement assez peu d'aménagement.
Une rivière la plus naturelle possible, bon, qui va quand même supporter un certain nombre d'aménagements, mais qui garde quand même un caractère naturel chaque fois que c'est possible. Le deuxième axe, le deuxième gros obstacle à l'atteinte du bon état, c'est les pollutions diffuses.
C'est-à-dire ?
Alors, soit on se place du point de vue des nappes souterraines, et là on a beaucoup de nappes qui sont polluées soit par les nitrates, soit par les pesticides. Et puis c'est également tous les enjeux liés à l'eutrophisation, et je pense notamment avec la mise en œuvre de la nouvelle directive cadre stratégie marine à l'eutrophisation sur les milieux marins.
Donc ce sont surtout des pollutions d'origine agricole ?
Les pollutions diffuses sont essentiellement, oui, des pollutions d'origine agricole.
Donc en termes d'action, il y a des grands chantiers en cours sur ces questions-là ?
On peut citer quelques grands chantiers qui sont dans l'actualité. Le premier concerne le rétablissement de la continuité, c'est-à-dire la libre circulation à la fois des poissons, mais également des sédiments vers l'aval.
C'est-à-dire les sables, les cailloux.
Voilà. Et cette politique, par contre, doit obligatoirement s'insérer dans une politique plus globale sur la morphologie des cours d'eau. Et elle passe essentiellement par une mobilisation d'une collectivité qui accepte de porter des études préalables et des travaux d'amélioration. Donc la gouvernance locale est très importante. Et puis les autres chantiers qui sont d'actualité, on a la mise en œuvre des programmes d'action dans les aires d'alimentation de captage d'eau potable, et puis également la mise en œuvre des cinquièmes programmes d'action en zone vulnérable pour les pollutions par les nitrates d'origine agricole.
Les grands acteurs de l'eau qui peuvent aussi être de potentiels pollueurs ont-ils déjà modifié leur comportement ?
Tous les usagers sont des pollueurs potentiels et tous ont à des degrés divers déjà fait des efforts. Pour les collectivités, on peut penser en premier lieu à l'amélioration, à la collecte du traitement des eaux usées, mais également des efforts faits pour la réduction des fuites dans les réseaux d'eau potable. Côté industriel, on a bien sûr des actions sur l'amélioration des traitements, mais aussi quelque chose qui a été très important, qui est la réduction des pollutions à la source, et notamment pour des eaux de lavage, village, il y a la mise en place de circuits fermés avec récupération et réutilisation des eaux plutôt que de circuits ouverts avec prélèvement puis rejet au milieu. Et les agriculteurs eux-mêmes ont fait des économies d'eau, notamment sur les territoires sur lesquels les tensions étaient les plus importantes. On arrive à mettre en évidence des économies d'eau sur la Champagne-Perrichonne, sur la Beauce, dans le bassin du Clain. Et puis également des actions de réduction des pollutions. Je pense notamment à la Bretagne, qui était il y a quelques années dans une situation inquiétante et sur lequel les politiques qui ont été menées ont permis de réduire la concentration en nitrate dans les cours d'eau.
Philippe Boineau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes scientifique et pêcheur professionnel. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la continuité écologique d'une rivière ?
La continuité écologique d'une rivière, c'est la possibilité pour à la fois les êtres vivants, mais aussi les sédiments transportés par les cours d'eau, de pouvoir se déplacer le long du cours d'eau.
Quelle est l'importance d'une rivière vivante ? Pourquoi les sédiments, par exemple, ont-ils besoin de se déplacer ? Quelle est l'importance pour la vie de la rivière ?
Alors pour les sédiments, c'est relativement important puisque quand un cours d'eau fait une crue, il transfère une énergie en fait qui a besoin de se dissiper. Et pour dissiper cette énergie, le cours d'eau creuse son lit, où il gratte les berges. Quand un cours d'eau fait une crue, il a besoin de transporter des sédiments parfois en quantité assez importante. Et si on l'a empêché de transporter ces sédiments, par exemple en faisant des endiguements trop serrés ou en faisant des barrages trop réguliers, eh bien on empêche ce transfert sédimentaire. Et du coup, quand il y a des crues importantes, le cours d'eau va s'attaquer à des ouvrages d'art comme les piles de pont, les berges transformées en digues, ou va creuser le fond de manière trop importante, ce qui va créer des désordres après sur les ouvrages d'art ou d'autres aménagements humains.
D'accord, donc là oui, c'est vraiment une question de sécurité. Et pour les espèces vivantes, telles que les poissons migrateurs, quelle est l'importance de ces mouvements ?
Quand vous avez une espèce de poisson migrateur qui... pour faire son cycle biologique, doit pouvoir impérativement circuler entre l'océan Atlantique ou la Méditerranée et puis les zones amont des cours d'eau ou moyennes où il doit pouvoir monter, se reproduire ou grandir. Quand l'homme construit un mur dans ce cours d'eau, généralement, il empêche l'accès aux zones de reproduction ou de grossissement, l'espèce disparaît.
D'accord.
C'est ce qui s'est passé depuis... à peu près 150 ans sur les cours d'eau français.
Alors, on l'a bien compris, en tant que pêcheur, vous êtes sensible à la présence ou à l'absence de certains poissons migrateurs dans les rivières. Quel est votre constat sur la présence de ces migrateurs sur la Loire et ses affluents ?
Alors, sur la Loire et ses affluents, effectivement, on a constaté que les efforts collectifs réalisés dans le cadre du plan Loire ont permis quand même de reconquérir une partie des populations de certaines espèces. On peut citer le cas de l'arasement de barrage de Maison Rouge sur la Vienne, un des grands affluents en rive gauche de la Loire, où le saumon avait disparu, où la lamproie a été réduite à quelques centaines de reproducteurs par an, et pour la Loire, c'était uniquement quelques dizaines de poissons tous les ans. L'arasement du barrage de Maison Rouge, l'effet escompté, c'est-à-dire qu'on a sauvé pour l'instant la Loire et la lamproie, sachant qu'il reste d'autres soucis qui s'ajoutent avec notamment le réchauffement climatique ou l'arrivée d'espèces invasives.
Est-ce qu'il y a d'autres avantages à restaurer les rivières ?
Il y a une bonne raison, c'est qu'une rivière en bonne santé écologique va produire une eau de meilleure qualité que si elle est dégradée. Et donc, en gros, avec une rivière en état écologique correct, on va avoir une garantie qu'on va avoir une eau qui va être beaucoup plus souvent correcte sur le plan de la qualité physico-chimique pour la consommation humaine. Et qu'en plus, on aura beaucoup moins de surcoûts liés au traitement ou à la dépollution.
Quelles sont, selon vous, les actions à mettre en œuvre en priorité pour une meilleure qualité des eaux, justement, une réelle continuité écologique des rivières sur le bassin de la Loire ? Quels sont les points noirs encore à débloquer ?
Les points noirs, on a identifié, je crois, une quinzaine d'ouvrages qui constituent encore des points noirs, surtout le bassin de la Loire, qui ne sont pas réglés. Et pour des espèces à enjeu patrimonial, pour ne pas citer l'anguille, on a encore des ouvrages qui sont des points noirs, comme par exemple l'écluse de Saint-Félix à Nantes. Ça a des conséquences sur une économie qui peuvent être lourdes, puisque sous prétexte réel de baisse des effectifs de poissons migrateurs, du coup, la seule mesure que l'administration se permet de mettre en œuvre de manière urgente, c'est éventuellement de réduire ou de fermer la pêche. Et on voit bien que là, effectivement, le pêcheur sert de variable d'ajustement à des problèmes de société dont on n'est pas responsable. Les problèmes que rencontrent la plupart des poissons migrateurs sont des problèmes sociétaux. Donc, le fait que le petit pêcheur, il dirait, paye pour l'ensemble de la société n'est pas du tout un traitement démocratique et, ou équitable.
La Loire est donc un endroit où il y a des pêcheurs professionnels. On peut être pêcheur professionnel sur une rivière.
Tout à fait. On peut être pêcheur professionnel sur une rivière. Et d'ailleurs, il y a des pêcheurs professionnels dans le sud-ouest de la France. Hein. Il y a des pêcheurs professionnels encore assez nombreux sur l'Adour, les côtiers landais ou même la Garonne, la Dordogne et la Gironde. Donc mes collègues sont bien présents sur tous ces territoires et encore bien actifs. Effectivement, leur survie actuellement est grandement mise en jeu par justement par les problèmes que rencontrent les poissons grands migrateurs. Certaines organisations écologistes disent même que les pêcheurs professionnels, pour l'instant, leur apparaissent encore plus menacés que les poissons qu'ils pêchent. Mmh. C'est vous dire un peu les tensions actuelles qui règnent dans notre domaine. Un fleuve de bonne qualité écologique va aussi produire des poissons de bonne qualité sanitaire et alimentaire. Donc, va permettre aux communautés locales de pêcheurs de vivre de leur métier et aussi de jouer le rôle de veilleur de l'environnement. Si on a une rivière en bonne qualité qui permet à des pêcheurs professionnels de vivre dessus, ou un estuaire suffisamment en bonne qualité, ben, du coup, tout le monde a intérêt à conserver ce milieu aquatique dans la meilleure qualité possible et à éviter qu'il se dégrade. Voilà.
Donc, on vous souhaite beaucoup de vie dans cette Loire et autour. Merci Philippe Boineau, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Parce que votre avis compte, participez à une consultation publique sur l'avenir de l'eau et des milieux aquatiques en répondant au questionnaire à votre disposition sur le site internet prenonssoindeleau.fr. Cette émission vous a été proposée par SOS Loire Vivante ERN France avec le soutien de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.